Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast De Voix Poétique. Je suis David et aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle exploration de l'âme humaine. Là où les mots deviennent passerelles entre nos blessures et nos guérisons, entre ce que nous fûmes et ce que nous aspirons à devenir. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un texte particulièrement bouleversant, un poème intitulé « Reconnaissance ». Et qui nous invite à revisiter ces territoires intimes où l'amour, la mémoire et le regret se mêlent dans une danse aussi douloureuse que nécessaire. Avant de plonger ensemble dans cette méditation, laissons-nous porter par ces vers qui résonnent comme un écho de nos propres expériences. Prenez le temps de vous installer confortablement, de laisser le silence s'installer en vous, et écoutons ensemble mon poème qui nous parle de reconnaissance, non pas celle que l'on accorde ou que l'on reçoit, mais cette forme plus secrète, plus bouleversante, par laquelle nous finissons par accepter la complexité de nos propres chemins amoureux. Des crépuscules de ma jeunesse, j'ai appris à dépenser mes mots sur les comptoirs des étoiles vaporeuses, à l'endroit où les doigts se caressent sans réserve, où les lèvres se chahutent avec amour et où les mots tendres froissent les draps tombants de ces pièces érigées en temple du vice-virtue. De l'aube, j'ai regardé les larmes, essuyant les visages gonflés des alcools nuptiaux. Les « je t'aime » dionysiaques ne trouvaient plus l'écho des nuits passées, pas plus que nos désirs égoïstes et autres obliques mentaux. L'animal expiègle s'était tapi dans l'ombre du jour, observant de son regard attentif, guettant le moindre mot, prêt à bondir sur les cœurs lourds des remords nauséeux. Je n'ai jamais su tenir les promesses des nuits d'été, ni celles faites au coin du feu. Brûlant tant d'âmes comptées en milliers, le son lointain d'un instrument désaccordé revient à mes oreilles attentives, mais je n'écoute au fond que le sang couler dans mes veines. Dernier son de l'amour possible pour un monde s'écoulant au rythme des nuits et des jours. Voilà, ces mots viennent de résonner dans l'espace et déjà ils nous habitent différemment. Car il y a quelque chose de particulier dans l'expérience d'entendre un poème. Les mots ne nous arrivent plus par les yeux, mais par les oreilles. Ils vibrent dans l'air avant de vibrer en nous. Ils prennent une dimension charnelle, presque tactile. Il existe des crépuscules qui marquent bien plus que la fin d'une journée. Certains signes, la clôture d'une époque, d'une innocence, d'une façon particulière d'habiter le monde. Et quand le poème nous parle de ces crépuscules de ma jeunesse, nous voilà tous renvoyés à ces moments particuliers où nous avons senti que quelque chose basculait en nous, que nous quittions définitivement un territoire de l'existence pour en explorer un autre. Dans les plis de ces fins de jour particulières, nous avons tous appris à dépenser nos mots avec cette générosité imprudente qui caractérise la jeunesse. Car être jeune, n'est-ce pas avant tout croire que nos réserves sont inépuisables, que nos mots, comme nos baisers, comme nos promesses, jailliront toujours avec la même fraîcheur, la même évidence. Dépenser ces mots, l'expression mérite, je pense, qu'on s'y attarde. Elle suggère à la fois la prodigalité et l'économie, l'abondance et la rareté. Comme si les mots étaient une monnaie précieuse que la jeunesse nous autorise à gaspiller, mais que l'expérience nous apprend à économiser. Et pourtant, cette dépense, au final, n'est-elle pas nécessaire? Comment apprendre la valeur des mots sans avoir d'abord expérimenté leur apparente infinité? Les comptoirs des étoiles vaporeuses. C'est une image que j'ai trouvée en l'écrivant saisissante pour décrire ces lieux où nous sommes tous, un jour, accoudés. Ces espaces indéfinis où la nuit devient complice de nos audaces, où la pénombre autorise les gestes que la lumière du jour rendrait impossibles. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette propension à chercher, dans l'obscurité bienveillante du soir, les permissions que nous n'osons pas nous accorder en pleine clarté. Ces comptoirs ne sont pas nécessairement physiques. Ils peuvent être métaphoriques, symboliques. Ces seuils psychologiques où nous nous autorisons enfin à exprimer ce que nous taisons habituellement. Les étoiles vaporeuses ne sont-elles pas ces témoins lointains et bienveillants de nos intimités? Ces présences cosmiques qui nous donnent le sentiment d'être à la fois infiniment petits et infiniment précieux. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de ces endroits où les doigts se caressent sans réserve, où chaque contact devient une déclaration, chaque effleurement une promesse. L'amour, dans sa dimension la plus charnelle, la plus immédiate, trouve dans ces instants privilégiés un terrain de jeu infini, sans réserve. Ces deux mots disent tout de la générosité amoureuse, de cette capacité à s'offrir sans calcul, sans protection, dans une vulnérabilité absolue. L'élève se chahute avec amour. Notez cette expression particulière, ce verbe chahuter, qui évoque à la fois la tendresse et la malice, la douceur et l'espièglerie. Il y a dans l'amour jeune cette dimension ludique que nous perdons parfois en grandissant, cette capacité à faire de chaque baiser un jeu, de chaque caresse une découverte. Chahuter, c'est aussi bousculer gentiment l'ordre établi, introduire dans la solennité de l'amour une note de légèreté bienfaisante. Et puis, ces mots tendres qui froissent les draps tombants, comme si les paroles d'amour avaient une consistance physique, comme si elles pouvaient littéralement transformer l'espace, donner au textile de nos intérieurs une texture nouvelle. Les draps qui tombent ne sont pas seulement le décor de l'intimité, ils deviennent les témoins silencieux de ces moments où la pudeur s'efface, où les corps et les âmes se rencontrent dans une simplicité absolue. Mais que sont donc ces pièces érigées en temple du vice vertueux? Voilà une expression qui mérite qu'on s'y attarde longuement, tant elle révèle la complexité de notre rapport à l'amour physique, tant elle touche à cette contradiction fondamentale qui habite notre rapport au plaisir des sens. Temple, d'abord, car il y a dans l'acte d'aimer quelque chose de sacré, quelque chose qui dépasse la simple satisfaction des sens. Chaque chambre d'amour devient le temps d'une rencontre, un espace consacré où se joue quelque chose qui nous dépasse. Le sacré n'a pas besoin de cathédrale. Il peut naître dans l'intimité de quatre murs ordinaires transformés par la présence de l'amour. Vice, ensuite, parce que notre éducation, notre culture, nos pudeurs nous ont souvent enseigné à voir dans le plaisir des sens quelque chose de coupable. Cette notion de vice révèle le poids des interdits, des tabous, de cette morale qui nous apprend à nous méfier de nos propres élans. Et pourtant, ce vice-là est-il vraiment condamnable quand il naît de l'amour authentique? Vertueux enfin, car cette culpabilité même révèle la puissance transformatrice de l'amour, sa capacité à nous élever au-dessus de nous-mêmes. Le vertueux n'est pas ici l'opposé du vice, mais sa transfiguration. Dans l'amour véritable, ce qui pourrait sembler coupable devient source d'élévation, de dépassement de soi. Cette contradiction apparente, vice-vertueux, touche au cœur de l'expérience humaine de l'amour. Nous sommes des êtres de chair et d'esprit, et l'amour, le plus authentique, ne peut ignorer ni l'une ni l'autre de ces dimensions. Les temples que nous érigeons dans l'intimité de nos chambres ne sont pas moins sacrés que ceux de pierre. Ils accueillent cette part de divin qui sommeille en chaque rencontre véritable entre deux êtres. Mais l'aube arrive toujours, et avec elle cette lucidité parfois cruelle qui dissipe les enchantements de la nuit. Le poème nous dit « De l'aube j'ai regardé les larmes ». Et cette formulation simple porte en elle toute la tragédie de l'amour humain. Car l'aube, c'est le retour du réel. C'est le moment où les masques tombent, où les illusions se dissipent, où nous devons faire face à la vérité de ce que nous sommes et de ce que nous avons vécu. De l'aube, nous avons tous regardé les larmes. Ces larmes qui ne sont pas forcément de tristesse, mais qui témoignent de cette intense vulnérabilité qui suit les moments de grande proximité. Car il y a quelque chose d'éprouvant dans l'intimité véritable, quelque chose qui nous laisse à vif, exposé comme si nous avions momentanément ôté notre peau pour la donner à caresser. Ces larmes peuvent être de joie, d'émotion pure, de reconnaissance pour la beauté de ce qui vient d'être vécu, mais elles peuvent aussi être de tristesse, de regret, de cette mélancolie particulière qui saisit parfois après l'amour. Comme si nous prenions soudain conscience de la fragilité de ce que nous venons de partager. Les visages gonflés des alcools nuptiaux, l'expression est, je pense, saisissante par sa précision. Ces alcools de mariage, de célébration, qui accompagnent souvent nos rituels amoureux. Mais gonflé, le visage l'est aussi par les pleurs, par l'émotion, par cette fatigue particulière qui suit les nuits d'intensité. Il y a dans cette image quelque chose de Bacchus, de dionysiaque. Cette ivresse qui peut être celle du vin autant que celle de l'amour. Les alcools nuptiaux ne sont pas seulement ceux du mariage officiel, ils symbolisent tous ces moments où nous célébrons l'union, où nous marquons par un rituel, fût-il aussi simple que de partager un verre. L'importance de ce que nous vivons. Et le réveil, après ces célébrations, porte toujours en lui cette ambiguïté, la joie du souvenir et la mélancolie de l'éphémère. Et justement, ces « je t'aime » dionysiaques, qui ne trouvent plus l'écho des nuits passées. Voilà bien le cœur du drame humain. La difficulté à faire durer l'instant, à maintenir dans la durée cette intensité qui nous habite dans les moments privilégiés. Dionysos, dieu de l'ivresse et de l'extase, mais aussi de l'éphémère, de l'instant qui passe et ne revient plus. Dionysiaque, c'est « je t'aime », le son par leur intensité, par leur caractère explosif, par cette dimension d'ivresse qu'ils emportent et qu'ils portent. Mais cette même intensité qui fait leur beauté fait aussi leur fragilité. Car comment maintenir l'extase? Comment faire durer l'ivresse sans qu'elle se transforme en gueule de bois existentielle? Nos déclarations d'amour les plus sincères prononcées dans l'intensité du moment peinent parfois à résonner dans l'écho du quotidien. Non pas qu'elles aient été mensongères, mais parce que l'être humain est changeant. Parce que les circonstances évoluent, parce que l'émotion qui les a fait naître ne peut se maintenir éternellement à la même température. Car le quotidien, justement, révèle cette autre face de nous-mêmes, nos désirs égoïstes et autres obliques mentaux. Comme cette formule est juste dans sa simplicité, obliques mentaux. Ces pensées qui ne vont pas droit au but, qui bifurquent, qui se dérobent, qui nous emmènent vers des considérations moins nobles que celles qui nous habitaient dans l'émotion pure. Nos esprits si promptes à l'élévation dans l'émotion retombent parfois dans des considérations plus terre-à-terre, plus calculatrices. Et l'égoïsme, cet égoïsme qui sommeille en chacun de nous, reprend parfois ses droits quand s'estompe l'enchantement. Nous redevenons humains avec tout ce que cela comporte de moins glorieux. Ces obliques mentaux ne sont pas forcément condamnables. Ils font partie de notre nature complexe, de notre incapacité fondamentale à maintenir constamment le même niveau d'élévation. Peut-être même sont-ils nécessaires, car qui pourrait supporter de vivre en permanence dans l'intensité absolue? Alors surgit cette figure troublante et fascinante, l'animal espiègle, qui s'était tapis dans l'ombre du jour. Quel est donc cet animal? Cette métaphore mérite toute notre attention car elle touche à quelque chose de fondamental dans notre constitution psychologique. Peut-être est-ce cette part de nous-mêmes que nous préférons ignorer, cette dimension instinctive qui observe, qui calcule, qui attend son heure. Cet animal n'est pas forcément maléfique, le terme espiègle suggère plutôt une malice amusée et une forme de sagesse primitive qui sait reconnaître nos illusions et nos contradictions. Il s'était tapi dans l'ombre du jour. Notez cette expression paradoxale. L'ombre du jour. C'est cette zone intermédiaire entre la pleine lumière de la conscience et l'obscurité de l'inconscient. C'est là que vivent nos intuitions, nos pressentiments. Cette forme de connaissance qui ne passe pas par le raisonnement, mais par l'instinct. Il observe de son regard attentif, car la lucidité peut être cruelle. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à percer les illusions que nous nous créons. Ce regard attentif, c'est celui de la conscience, qui ne se laisse pas duper par nos propres mensonges, qui continue de voir même quand nous préférerions fermer les yeux. guettant le moindre mot, car les mots ont un pouvoir immense, le pouvoir de révéler autant que de dissimuler. Et cet animal en nous sait reconnaître. Dans les inflexions de la voix, dans les hésitations, dans les silences, les signes avant-coureurs de la désillusion. Il attend le moment où nos belles déclarations révéleront leurs failles, où nos serments montreront leurs limites. Cette vigilance de l'animal espiègle n'est pas forcément pessimiste. Elle peut être protectrice, nous préparant aux déceptions pour mieux nous en préserver. Elle peut être éducatrice, nous apprenant à distinguer entre les émotions authentiques et les emballements passagers. Il est prêt à bondir sur les cœurs lourds des remords nauséeux. C'est une expression saisissante qui évoque cette pesanteur particulière du regret, ce poids physique que prend parfois la culpabilité. Le terme « bondir » suggère une action soudaine, imprévisible, comme si le remords nous sautait dessus sans prévenir. Les remords nauséeux, cette association entre une émotion morale et une sensation physique, révèle à quel point nos états psychologiques affectent notre corps tout entier. La nausée du remords, c'est cette sensation de dégoût qui peut nous saisir quand nous prenons conscience de nos erreurs, de nos lâchetés, de nos trahisons, même involontaires. Car nous portons tous, n'est-ce pas, ces remords nauséeux, ces moments où nous reportons nos élans, où nous regrettons nos abandons, où nous reprochons d'avoir cru, d'avoir aimé, d'avoir fait confiance. La nausée du remords, c'est cette répulsion pour nos propres faiblesses, cette difficulté à accepter notre humanité imparfaite. L'animal expiègle, qui bondit sur ses remords, n'est peut-être pas un ennemi, mais plutôt un révélateur. Il nous oblige à regarder en face ce que nous préférerions oublier, non par sadisme, mais par nécessité, car comment grandir, comment évoluer, si nous refusons de reconnaître nos erreurs. Et puis vient cette confession terrible et universelle. Je n'ai jamais su tenir les promesses des nuits d'été. Qui n'a jamais prononcé ces mots, au moins dans le secret de son cœur ? Cette phrase résonne comme un aveu d'impuissance face à nos propres aspirations, comme une reconnaissance douloureuse de nos limites humaines. Les nuits d'été, il y a dans cette expression quelque chose de particulièrement évocateur. L'été, c'est la saison de l'épanouissement, de la liberté, de cette impression que tout devient possible. Et les nuits d'été, avec leur douceur particulière, leur parfum de liberté, leur invitation à tous les possibles, sont éminemment propices aux promesses. La chaleur, la beauté du ciel étoilé, cette sensation d'être libéré des contraintes hivernales, tout concourt à nous faire croire que nous pouvons nous engager sans limite. Mais l'été passe, et avec lui s'envolent souvent ces engagements pris dans les mois du moment. Il y a quelque chose de profondément humain également dans cette incapacité à maintenir dans la durée l'intensité de l'instant. Les promesses des nuits d'été sont faites de chair et de sang, autant que de mots. Elles engagent tout notre être dans un élan vers l'autre. Mais l'être humain est changeant. Et ce qui nous semble évident sous les étoiles peut nous paraître impossible au lever du jour. Cette incapacité à tenir nos promesses n'est pas forcément un signe de faiblesse morale. Elle révèle plutôt la complexité de notre nature, notre incapacité fondamentale à prévoir avec certitude ce que nous serons demain. Nous promettons avec ce que nous sommes aujourd'hui, sans pouvoir garantir ce que demain sera en mesure d'honorer au niveau de cet engagement. Ni celle faite au coin du feu, le feu, autre symbole de l'intensité éphémère, mais aussi de l'intimité partagée. Combien de promesses ont été échangées dans la chaleur rassurante d'un foyer ? Le feu crée une intimité particulière. Il unit ceux qui partagent sa chaleur dans une complicité primitive. Dans la lumière dansante des flammes, dans cette chaleur qui nous enveloppe, nous nous sentons plus proches, plus authentiques, plus enclins aux confidences et aux engagements. Mais le feu s'éteint, et avec lui disparaît parfois la magie qui avait présidé à nos engagements. Ce qui semblait évident dans la chaleur du foyer peut nous paraître impossible dans la froideur du quotidien. Le feu ne fait pas que réchauffer nos corps. Il réchauffe aussi nos cœurs exalte nos émotions, nous donne cette générosité particulière qui nous pousse vers l'autre. Brûlant tant d'âmes comptées en milliers. Cette image est bouleversante par sa généralité, par cette vision panoramique qu'elle nous offre de la condition humaine. Car nous ne sommes pas seuls dans notre incapacité à tenir nos promesses. Des milliers d'âmes avant nous ont brûlé de ces mêmes feux, ont prononcé ces mêmes serments, ont connu cette même difficulté à transformer l'élan en durée. Il y a dans cette prise de conscience quelque chose de consolant et de vertigineux à la fois. Consolant car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos faiblesses, que nos défaillances s'inscrivent dans une longue tradition humaine. Vertigineux car elle nous confronte à cette répétition infinie des passions humaines, à cette incapacité apparente de l'humanité à apprendre de ses erreurs amoureuses. Mais peut-être ces répétitions n'est-elle pas un échec ? Peut-être est-elle nécessaire, car chaque génération doit faire ses propres expériences, traverser ses propres désillusions pour accéder à sa propre forme de sagesse. Les âmes qui brûlent ne brûlent pas en vain. Elles alimentent le grand brasier de l'expérience humaine. Le son lointain d'un instrument désaccordé revient aux oreilles attentives. C'est une métaphore saisissante pour décrire le fonctionnement de la mémoire. Car la mémoire ne nous restitue jamais fidèlement le passé. Elle nous le rend déformé, désaccordé, comme un instrument qui aurait souffert du temps et des intempéries. Ce son lointain évoque à la fois la distance temporelle et la distance émotionnelle. Les souvenirs nous parviennent de loin, à travers les années, filtrés par tout ce que nous avons vécu depuis. Et cette distance leur donne parfois une beauté mélancolique, comme ces mélodies que l'on entend au loin et qui nous émeuvent, d'autant plus qu'on ne les perçoit que partiellement. L'instrument désaccordé, c'est peut-être notre propre voix, notre propre capacité à restituer l'émotion passée. Nous essayons de rejouer les mélodies de notre jeunesse. Mais quelque chose a changé en nous. Quelque chose s'est détendu, ou peut-être trop tendu. Et le résultat sonne faux à nos oreilles actuelles. Mais cette fausseté n'est-elle pas paradoxalement plus vraie que ne le serait une restitution parfaite ? Car nous ne sommes plus les mêmes que ceux qui ont vécu ces expériences. Le désaccordage de l'instrument révèle le passage du temps, l'usure de l'expérience, cette transformation inévitable que nous subissons tous. Et pourtant, nous tendons l'oreille vers ces sons imparfaits, car ils portent en eux l'écho de ce que nous avons vécu. Même désaccordée, la mélodie du souvenir conserve quelque chose de son charme originel. Elle nous permet de retrouver, ne serait-ce qu'un instant, celui que nous étions. Les oreilles attentives, c'est une expression qui vient souligner l'importance de l'écoute dans le processus de remémoration. Nous devons tendre l'oreille vers nos souvenirs, faire l'effort de les entendre malgré leur déformation. Cette attention particulière que nous portons aux échos du passé témoigne de notre besoin fondamental de continuité, de notre désir de maintenir un lien avec celui que nous fûmes. Mais écoutons-nous vraiment cette musique du souvenir ? Le poème nous dit « Je n'écoute au fond que le sang couler dans mes veines ». Voilà bien l'essence de la méditation profonde, ce retour à soi, à cette pulsation fondamentale qui nous maintient en vie, à ce rythme qui nous accompagne depuis notre naissance et nous accompagnera jusqu'à notre dernier souffle. Écouter son sang couler, c'est se reconnecter à sa dimension purement biologique, à cette animalité fondamentale qui nous constitue. Dans un monde saturé de bruit, de sollicitations, de distractions, cette écoute du rythme intérieur apparaît comme un refuge, comme un retour aux sources de notre être. Mais c'est aussi, paradoxalement, accéder à quelque chose de spirituel, car ce rythme intérieur nous relie à tous les êtres vivants, à cette pulsation universelle qui anime le monde. Dans le silence de cette écoute intérieure, nous retrouvons notre place dans le grand concert du vivant. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette attention à notre circulation sanguine. Elle nous rappelle que nous sommes vivants, que malgré nos erreurs, nos regrets, nos promesses brisées, la vie continue en nous. Ce rythme régulier, cette pulsation fidèle, nous offre une forme de consolation que les mots ne peuvent donner. Cette écoute devient dernier son de l'amour possible pour un monde s'écoulant au rythme des nuits et des jours. C'est la phrase finale qui résonne comme un glas et comme un espoir mêlé, comme une conclusion qui ouvre autant qu'elle ferme d'ailleurs. Dernier son, comme si l'amour était en train de s'éteindre, comme si nous assistions à ces derniers soubresauts. Cette vision pourrait sembler pessimiste, désespérée même peut-être. Et pourtant, tant qu'il y a son, tant qu'il y a cette pulsation de sang dans nos veines, l'espoir demeure. Amour possible, car cette possibilité, même réduite à sa plus simple expression, même ramée à ce rythme biologique fondamental, demeure. L'amour n'est pas mort. Il est possible, même si cette possibilité s'est transformée, purifiée, simplifiée. Le monde s'écoule au rythme des nuits et des jours. Cette image de l'écoulement évoque à la fois la fuite du temps et sa cyclicité. Le monde ne s'arrête pas, il continue sa course, indifférent à nos amours et à nos peines. Cette indifférence même nous rappelle que l'amour, s'il veut exister, doit sans cesse se réinventer, se redécouvrir, s'adapter au mouvement perpétuel de l'existence. Mais ce rythme des nuits et des jours n'est-il pas lui aussi une forme d'amour finalement ? L'amour cosmique qui maintient l'univers en mouvement, qui assure la succession des saisons, qui permet la vie. Notre petit amour humain s'inscrit dans cette grande pulsation universelle. Et peut-être trouve-t-il là sa véritable dimension. Que nous enseigne donc cette reconnaissance ? Peut-être d'abord la lucidité. La reconnaissance de nos limites, de notre incapacité fondamentale à figer l'instant, à maintenir éternellement l'intensité de nos élans. Mais cette lucidité n'est pas désespoir, elle est acceptation. Acceptation de notre humanité, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Car il y a quelque chose de profondément beau dans cette fragilité même. Si nous pouvions tenir toutes nos promesses, si nos amours ne connaissent jamais de failles, que deviendrait l'émotion, la surprise, la découverte ? C'est peut-être justement parce que nous sommes faillibles que chaque moment d'amour véritable prend une valeur si précieuse. La reconnaissance, c'est aussi l'acceptation de cette cyclicité qui révèle le poème. Les crépuscules succèdent aux aubes, les promesses se brisent et renaissent, les instruments se désaccordent et retrouvent parfois leur justesse. L'amour n'est pas un état permanent, mais un mouvement, une recherche perpétuelle, une aspiration qui se renouvelle sans cesse. Et puis il y a cette dimension collective de l'expérience humaine que souligne mon poème. Ces âmes comptées en milliers qui ont brûlé avant nous, ces millions d'êtres qui ont connu les mêmes élans et les mêmes désillusions. Nous ne sommes pas seuls dans notre quête d'amour, dans nos réussites comme dans nos échecs. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette solidarité involontaire de l'humanité face au mystère du cœur. Cette reconnaissance collective nous permet de relativiser nos propres échecs. Nos promesses brisées ne font pas de nous des êtres exceptionnellement faibles ou menteurs. Elles nous incitent et nous inscrivent dans la grande fraternité des humains qui ont tenté d'aimer. Et cette tentative même imparfaite, même vouée à l'échec partiel, garde sa beauté et sa valeur. Peut-être la sagesse consiste-t-elle à accepter cette désaccordance fondamentale, à trouver de la beauté dans l'imperfection de nos amours. Car un instrument parfaitement accordé peut sonner froid, technique, sans âme. Les légères dissonances, les imperfections de l'accord donnent parfois à la musique sa couleur particulière, son humanité finalement. De même, nos amours imparfaites, nos promesses parfois brisées, nos élans contradictoires composent la mélodie complexe de l'existence humaine. Il ne s'agit pas de renoncer à aimer par peur de décevoir ou d'être déçu, mais d'aimer en conscience, en acceptant la fragilité inhérente à tout engagement humain. Car qu'est-ce que l'amour sinon ce pari permanent sur l'autre et sur soi-même ? Ce pari que malgré nos faiblesses, nos contradictions, nos limites, quelque chose de beau peut naître de la rencontre entre deux êtres. L'amour n'est pas la négation de nos failles, mais leur transfiguration. Et cette capacité d'écouter le sang couler dans nos veines, cette attention à notre rythme intérieur, nous rappelle que nous sommes vivants, que tant que ce rythme persiste, l'amour reste possible. possible sous des formes nouvelles, peut-être différentes de celles que nous avions imaginées dans nos nuits d'été, mais possible néanmoins. Le temps qui passe n'est pas l'ennemi de l'amour, il en est la condition. Car aimer, c'est accepter de s'inscrire dans la durée tout en sachant que cette durée nous transformera. Aimer, c'est faire le pari que nos transformations mutuelles, loin de nous éloigner, nous rapprocheront dans une compréhension plus profonde de ce que nous sommes. Cette reconnaissance dont nous parle mon poème n'est donc pas amère malgré sa lucidité. Elle est le prélude nécessaire à un amour plus mature, plus conscient de ses enjeux et de ses limites. Reconnaître nos échecs passés, nos promesses non tenues, nos élans contradictoires, c'est nous donner les moyens d'aimer mieux avec plus de vérité et moins d'illusions. Car les illusions, si elles embellissent l'instant, préparent souvent les désillusions. Une promesse faite en pleine conscience de sa difficulté a plus de chances d'être tenue qu'un serment prononcé dans l'ivresse du moment. Un amour qui accepte sa fragilité est plus solide qu'une passion qui se croit éternelle. En conclusion, et peut-être est-ce là le véritable enseignement de cette méditation poétique, l'amour le plus authentique naît non pas de la certitude, mais de l'acceptation de l'incertitude. Il naît de cette capacité à dire « je t'aime » en sachant que ce « je » et ce « tu » changent sans cesse, que cet amour devra sans cesse se réinventer pour survivre au passage du temps. Le son d'instrument désaccordé qui revient à nos oreilles n'est peut-être pas seulement celui du passé. C'est peut-être aussi l'annonce d'une mélodie future, différente de celle que nous espérions, mais porteuse de beauté inattendue. Car la vie, comme la musique, trouve parfois dans la dissonance des harmonies que la perfection n'aurait jamais pu révéler. Alors oui, écoutons le sang couler dans nos veines, écoutons ce rythme fondamental qui nous relie à la grande symphonie du vivant, et dans ce silence intérieur, dans cette attention à notre pulsation la plus intime, préparons-nous à accueillir l'amour sous toutes ses formes, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du monde, dans sa beauté comme dans ses imperfections. Car l'amour possible existe toujours, même dans un monde qui s'écoule au rythme des nuits et des jours. Il existe dans chaque regard bienveillant, dans chaque geste de tendresse, dans chaque parole de réconfort. Il existe dans notre capacité à nous émouvoir encore, à nous laisser toucher par la beauté, à offrir notre vulnérabilité sans garantie de retour. La reconnaissance, finalement, c'est peut-être cela. Accepter que l'amour soit à la fois notre plus grande force et notre plus grande fragilité. Accepter que nous soyons des êtres de contradiction, capable du meilleur comme du pire, mais porteur toujours de cette étincelle qui nous pousse vers l'autre. Et dans cette acceptation, dans cette lucidité bienveillante envers nous-mêmes et envers les autres, peut naître une forme d'amour plus profonde, plus durable, plus vraie que toutes les promesses des nuits d'été. Un amour qui n'a plus peur de ses propres limites parce qu'il a appris à les transformer en source de créativité et de renouvellement. L'animal espiègle qui nous observe depuis l'ombre du jour n'est peut-être pas notre ennemi, mais notre guide secret. Il nous rappelle notre humanité, nos faiblesses, nos contradictions. Non pour nous décourager, mais pour nous apprendre l'humilité. Et l'humilité, est-ce que ce n'est pas la condition première de l'amour véritable ? C'est sur cette note d'espoir teintée de réalisme que nous allons nous quitter aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir partagé cette méditation avec moi sur les mystères du cœur humain, sur cette reconnaissance qui nous apprend autant sur nous-mêmes que sur l'amour que nous portons au monde. Que le son de votre propre sang qui coule dans vos veines vous rappelle toujours que vous êtes vivant et que tant que vous l'êtes, l'amour reste possible sous mille formes différentes, dans mille moments inattendus. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles explorations de l'âme humaine. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.